tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offrent des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1960-1970, vous entendrez de Gheorghe Ligeti le concerto pour piano et orchestre.
Au producteur d'humaines richesses, par Bernard Friot. Seules les activités susceptibles de valoriser le capital sont aujourd'hui considérées comme du travail. En dehors de ce cadre, elles ne seraient qu'improductives. Mais on peut être utile aux actionnaires et utile à la société. Il s'agit d'une autre conception du monde et de la valeur qui a fondé le régime général de la sécurité sociale sur des principes révolutionnaires. Ces principes montrent audacieusement la voie. Depuis des décennies, les batailles menées par les forces de la réforme libérale ont essentiellement consisté à priver la classe ouvrière de ce qui fait son unité au-delà des professions, des origines sociales, du sexe et des cultures, le statut de producteur. Ce qui fondamentalement unit le chaudronnier et le vidéaste, l'ingénieur et l'ouvrier de chaîne, la boulangère et l'instituteur, c'est à la question « qui produit la richesse ?» la faculté de répondre « c'est nous ». Contre ce noyau de la conscience de classe, la bourgeoisie conduit depuis les années 1970 une double offensive, idéologique d'abord. Il s'agit de faire oublier comment en 1946, le mouvement ouvrier imposa avec le régime général de sécurité sociale et le statut des électriciens gaziers les prémices d'un changement de mode de production. Car à compter de cette date, les sommes colossales collectées par la cotisation sociale et gérées jusque dans les années 1960 par les travailleurs eux-mêmes rémunérèrent comme du travail des activités auparavant tenues pour improductives, les services de santé, l'activité des retraités, le travail d'éducation des enfants à la maison, etc. Il suffit d'énumérer quelques-uns des accomplissements de ces années d'après-guerre pour comprendre à quel point il apporte aux dirigeants d'en effacer la trace dans la conscience collective. Le salaire à vie des fonctionnaires et des retraités, le financement de l'ensemble du système hospitalo-universitaire français, sans prêt bancaire ni actionnaire dans les années 1960-1970, le taux de cotisation augmenta, le statut non capitaliste de cet outil qu'est l'hôpital, ceux qui y travaillent en sont copropriétaires d'usage, même si ce statut reste à l'état d'ébauche.
Les batailles menées par la réforme libérale consistent à la priver la classe ouvrière de son statut de producteur.
Un communisme balbutie. La grande force du monde ouvrier fut alors de combattre non pas pour la répartition de la valeur, mais pour une autre production de la valeur. Ainsi, Ambroise Croizat, le secrétaire de la Fédération CGT, Confédération Générale du Travail des Métaux, devenu en novembre 1945, ministre chargé de l'application des ordonnances sur la sécurité sociale, érige-t-il dans la loi d'août 1946 l'éducation des enfants par leurs parents au rang de travail productif. Il calcule d'ailleurs le montant des allocations familiales comme un multiple du salaire horaire de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie et indexe le premier sur la progression du second. Une mère de deux enfants est ainsi rémunérée 225 heures de salaire ouvrier par mois pour un travail déconnecté du marché de l'emploi et de la subordination patronale, mais pas de la domination masculine. Ce qu'institue le régime général, ce n'est pas l'affectation d'une partie de la valeur à des improductifs utiles, c'est une production de valeur qui sort le travail du carcan du capital. Travailler sans employeur ni actionnaire, recevoir un salaire socialisé, jouir de la propriété d'usage des outils, une société communiste balbutie. La seconde offensive menée contre ce monde en devenir consiste à briser l'unité sociale et économique des producteurs en multipliant les mesures qui redéfinissent le travail autour des seules activités susceptibles de valoriser le capital. Le discours réformiste rabâche ainsi que l'assurance maladie ne crée pas de valeur économique en produisant des soins, elle engendre des dépenses de santé. Ou que le salaire des soignants ne rétribue pas vraiment leur travail, il provient de la solidarité des autres travailleurs. Cette entreprise de désintégration du monde des producteurs a débuté en ciblant les jeunes. L'intention était d'en finir avec la progression du salaire d'embauche qui poussait à la hausse l'ensemble des rémunérations. Le salaire à 25 ans finit par être divisé en deux entre la fin des années 1960 et la fin des années 1990. Il n'y avait pas de jeunes sur le marché du travail jusqu'à ce que Raymond Barre les invente en 1977 sous la figure victimisée des 16-18 ans en échec scolaire qui méritent la solidarité plutôt qu'un salaire normal. Auparavant, on était payé au salaire de la convention collective, quel que soit son âge. Avec les chômeurs, les mères élevant seules leurs enfants, les non ou faiblement diplômés, les habitants de territoires en conversion, etc., le même scénario se répète depuis 40 ans, qui vise à sortir une catégorie du statut commun de producteur, victimisation d'un groupe social, appel à la solidarité capitaliste, remplacement du salaire par un forfait fiscal. Cette grande découpe se poursuit malgré la protestation impuissante des organisations politiques, associatives ou syndicales, ayant déplacé leur combat social vers la solidarité envers les victimes. Vaincre M. Emmanuel Macron et le monde qu'il incarne impose aux contestataires un changement radical de stratégie. Il importe d'abord de mener la lutte sur le bon terrain, non pas celui des victimes, mais celui des producteurs que nous sommes.
Vaincre Emmanuel Macron et le monde qu'il incarne impose aux contestataires un changement radical de stratégie.
Travail et lutte des classes. Ce qui vaut, ce qui est considéré comme du travail dans l'espace infini des activités humaines, n'est rien d'autre qu'une convention décidée par les rapports sociaux. L'activité « conduire des enfants à l'école » n'a pas de valeur économique si les parents s'en chargent. Mais elle en acquiert une lorsqu'elle est confiée à une assistante maternelle. Le discours capitaliste ne nie pas l'utilité des parents qui éduquent, des retraités qui s'activent et des soignants qui sauvent. Mais il identifie la production aux seules activités menées dans le cadre de la subordination à un employeur propriétaire de l'outil de travail en vue de la mise en valeur d'un capital. N'importe quelle activité pourrait être validée socialement comme travail, mais cette validation fait l'objet d'une irréductible lutte des classes. Ceux qui déterminent si telle ou telle activité constitue ou non un travail détiennent le pouvoir sur la production. Ils décident ce qui produit, ce qui est produit où, comment et pour combien. La classe dirigeante ne tire sa puissance que de la maîtrise du travail et la conserver l'obsède. Sans elle, pas de profit. Pour la vaincre, il faut gagner l'adhésion à une pratique de changement de la production, de la recherche et de l'entreprise du travail. Et pour cela, s'appuyer sur les puissantes institutions imposées après-guerre par le monde ouvrier. Malgré l'ardeur des réformateurs libéraux, la socialisation salariale de la valeur monte tendanciellement en puissance. Rapporté au salaire brut, le taux de cotisation et d'impôts affectés à la sécurité sociale a plus que doublé depuis 1945. Les prestations sociales, qui représentaient 15% du produit intérieur brut en 1959, sont passées à 32%. Quant au salaire à vie, il concerne aujourd'hui un tiers des plus de 18 ans, fonctionnaires, personnel à statut, salariés de certaines branches, la moitié des retraités. Mais cela concerne essentiellement la production non marchande. Même après-guerre, le capital a su conserver son hégémonie sur le domaine marchand. Faire sauter ce verrou est prioritaire. Classe naguère révolutionnaire, la bourgeoisie avait unifié à la fin du XVIIIe siècle le statut juridique des personnes jusqu'alors divisées à leur naissance. Les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Crispée sur ses privilèges, elle s'avère désormais incapable d'organiser la production de valeurs sur des bases anthropologiques, territoriales et écologiques acceptables. Dès lors, la tâche du salariat consiste à unifier le statut économique des personnes en proclamant leur liberté et leur égalité en droit dans le champ de la valeur. Comment ? En attribuant trois nouveaux droits à tout individu le jour de sa majorité. Un salaire à vie, qui entérine pour chacun le producteur de la valeur, la propriété d'usage des outils de travail qu'il aura à utiliser, la participation aux instances des coordinations de l'activité économique. À ces droits correspondrait l'instauration de deux cotisations prélevées sur la valeur ajoutée et versée, sur le modèle de la sécurité sociale, à des caisses spécifiques, caisses de salaire et caisses d'investissement. Organisée autour d'une qualification associée à chaque individu et appelée à évoluer au cours de la carrière, le salaire à vie ne serait plus versé par l'employeur, mais par les caisses de salaire. Il ne dépendrait plus de l'emploi et deviendrait un attribut personnel. Il en irait de même pour la propriété d'usage. Les salariés dirigeraient effectivement la production sur leur lieu de travail, composition du collectif, définition des investissements, de la place de la division internationale du travail, etc. Mais l'exercice effectif de la propriété d'usage ne peut se limiter à l'outil de travail. Il doit s'étendre aux décisions concernant les grandes orientations économiques à travers la participation des salariés aux délibérations des caisses d'investissement. Celles-ci remplaceraient les actionnaires pour décider des investissements, détermineraient l'affectation des cotisations économiques et créeraient de la monnaie à la place des banques, tant pour le financement de nouveaux projets que pour celui des dépenses de fonctionnement des services publics d'accès gratuit.
Unifier le statut économique des personnes en proclamant leur liberté et leur égalité en droit dans le champ de la valeur.
Un nouveau modèle de propriété. Ces trois droits fonderaient la souveraineté populaire sur l'économie et donneraient un statut de producteur la force politique que possède le statut de propriétaire dans l'article qui clôt la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Tous titulaires de notre salaire et de notre outil, mener une telle bataille implique un travail de conviction en direction non seulement des salariés, mais également des paysans, des indépendants et des petits patrons. De même que l'intervention des travailleurs dans leur entreprise suppose qu'ils ne redoutent pas de perdre leur salaire, l'émancipation du travail des indépendants suppose que leurs revenus ne dépendent pas des aléas économiques. Il devrait s'avérer également possible de convaincre les petits paysans que les 10 milliards d'euros de prétendue aide à l'agriculture doivent être affectés à la personne et non pas à l'hectare ou au produit, ce qui assurerait 20 000 euros de salaire annuel à chacun des 500 000 exploitants et constituerait le début d'une logique de salaire à vie. Sans doute sera-t-il difficile de persuader les patrons de petites et moyennes entreprises de se faire harakiri en tant que propriétaires de leur société. Dans le nouveau régime, l'entreprise ne serait pas la leur, mais il serait copropriétaire d'usage, au même titre que les autres salariés, d'un outil de travail devenu patrimoine collectif. Bien des questions demeurent, dont celle de l'exportation d'une telle organisation économique dans d'autres pays, ainsi que de sa compatibilité avec le libre-échange et les contraintes européennes. Mais une addition de court terme cohérent avec le régime actuel ne conduira qu'au statu quo. La classe des producteurs se construit au présent dans la conquête de la responsabilité économique. Il faut tenir l'exigence d'identité du projet et du chemin. Aucun lyrisme dans le projet, aucun prosaïsme dans le chemin. La révolution est une proposition parfaitement audible s'il s'agit d'honorer le combat de nos anciens. Thank you.
Thank you. Thank you.